Donc, en 2019, j'ai parlé des circonstances dans lesquelles des dessins de Michel-Ange ont été retrouvés dans une cave de l'église San Lorenzo de Florence et comment son Christ en croix, une œuvre de jeunesse, avait été identifié dans un lieu totalement inattendu. Je vais vous parler de quelques tableaux réalisés par des artistes italiens. La plupart se trouvent dans les collections françaises. Mon propos n'est pas d'étudier les tableaux en détail, mais d'évoquer leur histoire et leurs aventures parfois très agitées. Alors, voilà. En fait, c'est une reprise des petits articles publiés dans Accorfissimo pendant le premier confinement. Je suis certain que vous en souvenez parfaitement. Connaissons-nous bien la vie aventureuse de la Joconde? Il faut bien commencer par le plus célèbre. Tout le monde croit connaître l'histoire de la Joconde, mais c'est peut-être ce tableau qui a vécu les plus nombreux déplacements et des aventures les plus périlleuses. La date de création du tableau fait débat. Les dernières recherches laissent penser qu'il a été réalisé entre 1513 et 1516, et même 1519, année de la mort de Léonard. À la mort de son protecteur, Julien de Médicis, en mars 1516, Léonard de Vinci répond à l'invitation du roi de France. Le voyage de Léonard n'a jamais été consigné dans le moindre registre. Tout juste sait-on qu'il est parti de Rome après la mi-août 1516 et qu'il s'est arrêté plusieurs jours à Florence pour faire ses adieux à ses proches. Dans ses bagages, il transporte trois tableaux importants, la Joconde, la Sainte Anne et le Saint Jean-Baptiste. Au début de l'automne 1516, Léonard franchit les Alpes. Il a probablement emprunté la route reliant Turin au Val de Suse avant de descendre la Maurienne vers Chambéry, Lyon et Roanne. Il a dû mettre 2 mois pour rallier Amboise, où l'attend le jeune roi de France. Un voyage périlleux et éreintant pour un homme de 64 ans. La Joconde a fait le voyage dans une sacoche de cuir, peut-être à dos de mulet. En 1518, le roi acquiert la Joconde, qui entre ainsi dans les collections royales. Au château de Fontainebleau, elle est présentée dans l'appartement des Bains, situé sous la galerie François Ier, que l'on verra peut-être un jour. Ce qui n'est pas le meilleur endroit pour la conservation d'une peinture sur bois. Louis XIV fait venir le tableau au Louvre, puis à Versailles. En 1798, pendant la Révolution, le tableau est présenté au Louvre. Napoléon Ier le fait placer dans les appartements de Joséphine, aux Tuileries. Puis le tableau rejoint le Louvre. Le lundi 21 août 1911, le vol de la Joconde est constaté. Picasso et Apollinaire sont suspectés et accusés à tort. L'enquête piétine. Le voleur est un peintre, c'est la fiche de police que vous avez sous les yeux, est un peintre et vitrier italien, Vincenzo Perugia, qui avait travaillé au Louvre lors de l'encadrement du tableau. Vous voyez une page du journal où l'épisode du vol est raconté comme une bande dessinée, on le voit évoluer. Il connaît bien les lieux, ce Vincenzo. Profitant de la fermeture du musée, c'est un lundi, il s'approche de la Joconde sans difficulté, il est 7h du matin, il est tout seul. En quelques minutes, il s'empare du tableau, le dissimule sous sa blouse d'employé et rentre chez lui dans le 10e arrondissement de Paris. Le chef-d'œuvre de Léonard restera caché sous son lit durant plus de 2 ans. Il est arrêté en 1913, ce Vincenzo, quand il tente de vendre le tableau à un antiquaire florentin. Le tableau est restitué, non sans avoir fait une tournée triomphale à Florence, Rome et Milan. La Joconde est de retour au Louvre le 4 janvier 1914. En 1914, la Joconde, comme une grande partie des collections du musée, est mise en sécurité à Bordeaux, puis à Toulouse. À la fin de la guerre, elle retourne au musée du Louvre. Elle est alors installée dans la Grande Galerie. En septembre 1938, à la suite de l'annexion de la région des Sudètes imposée par Adolf Hitler et dans le contexte d'un risque de guerre, Jacques Jaujard, directeur des musées nationaux, prend la décision de mettre la Joconde en sécurité au musée Ingres à Montauban. Quelques semaines après son départ, les accords de Munich semblent écarter le danger. Le tableau réintègre le Louvre. Entre le 27 septembre 1938 et le 17 juin 1945, la Joconde voyagea 10 fois. Pour le voyage, elle était enfermée dans un capitonnage en velours rouge, lui-même posé dans un écrin de bois précieux, lequel était placé dans une caisse à double paroi en bois de peuplier. Elle était identifiée par le seul matricule MNLP numéro 0. MNLP, c'est Musée National du Louvre Peinture. Le numéro 0, accompagné de 3 points rouges, l'a désignée comme l'œuvre la plus importante du musée. En 1939, lorsque la guerre semble inéluctable, les chefs-d'œuvre du Louvre sont évacués selon un plan conçu dès 1938 par Jacques Jaujard. L'intention est de mettre ces œuvres hors de portée des Allemands. Les œuvres seront dispersées aux 4 coins de la France et placées dans divers endroits. Jaujard fait fermer le musée du Louvre le 25 août 1939 et placer les œuvres dans des caisses. Le 28 août 1939, à 6 heures du matin, un premier convoi de 8 camions quitte la cour carrée du Louvre à destination de Chambord. Le déménagement de tableaux le plus important de l'histoire commence. En 4 mois, 5 446 caisses contenant des collections du Louvre, d'autres musées parisiens et de propriétaires privés quittent la capitale dans 199 camions répartis en 51 convois vers 11 abbayes et châteaux de l'ouest et du centre de la France. La Joconde part d'abord pour le château de Chambord, où transitèrent à cette époque de nombreuses peintures et sculptures des musées parisiens. Le 14 novembre 1939, la Joconde est transportée à Louvigny, près de Caen. Puis le 31 mai 1940, la Joconde est remise dans sa caisse et quitte Louvigny le 3 juin 1940 à 5h15 du matin pour Chambord. Après une brève halte à Chambord les 3 et 4 juin 1940, elle prend la route de l'abbaye de Loque-Dieu, dans l'Aveyron, où elle séjourne tout l'été. Du 3 octobre 1940 au mois de mars 1943, Mona Lisa séjourna au musée Ingres de Montauban. Puis, l'invasion allemande de la zone libre oblige ses gardiens à la remonter un peu plus au nord, au château de Montal en Quercy, dans le Lot, où elle demeurera jusqu'à la fin de la guerre. Mais elle aurait aussi transité par diverses demeures anonymes du Lot et des Causses, qui auraient ainsi accueilli le tableau jusqu'en juin 1945, où il sera réinstallée au Louvre. En 1962, elle voyage à Washington et New York. Elle est accueillie comme chef d'État par John Fitzgerald Kennedy et son épouse. En 1974, elle est invitée à Tokyo. Au cours du voyage de retour, elle fait une halte à Moscou. Cet arrêt a été quasiment imposé par le gouvernement soviétique, pour l'autoriser à survoler le territoire. Partout, elle reçoit un accueil triomphal. Depuis, tout voyage lui est interdit, elle doit rester confinée au Louvre. Dans un article daté du 1er octobre 2020 et publié sur son blog La Tribune de l'Art, je vous invite à consulter ce blog qui était très intéressant sur le plan des nouvelles dans le domaine de l'art. Didier Rickner, le directeur du blog, signale la découverte de 2 panneaux de Giovanni Bellini dans une collection particulière française. Giovanni Bellini, né à Venise entre 1425 et 1433, on ne sait pas exactement, est mort dans la même ville le 29 novembre 1516, est un peintre italien de la Renaissance, considéré comme le précurseur de l'école vénitienne, dont l'œuvre marque la rupture définitive avec le style gothique. En fait, le 12 mars 2019, le journal officiel publiait le refus de certificat d'exportation des 2 panneaux attribués à Giovanni Bellini, un Saint-Étienne et un Saint-Laurent. L'avis de la commission, c'est bien ce que vous avez tous les yeux. L'avis de la commission des trésors nationaux signalait que ces œuvres faisaient partie du même polyptyque que 2 autres tableaux figurant un saint évêque, probablement saint Augustin, et un saint Antoine abbé, donné en 1875 par Guillaume Parisseau, l'ancien directeur du magasin La Belle Jardinière, à l'église du Pec, dans les Yvelines, c'est juste à côté de Saint-Germain-en-Laye, et déposé depuis 1980 au Louvre. Curieusement, les deux panneaux du Louvre n'avaient jamais donné lieu à des études très avancées et sont toujours seulement attribués à Giovanni Bellini. Toujours situé dans l'école vénitienne, vers 1460, les deux panneaux du Louvre avaient été attribués à plusieurs artistes. Cependant, en 1992, Pierre Rosenberg affirmait pour sa part le nom de Giovanni Bellini. Les deux tableaux réapparus, qui appartiennent depuis le milieu du XIXe siècle à une vieille famille aristocratique française, ont fait l'objet d'une étude très approfondie. Il faut signaler d'abord leur extraordinaire qualité et leur bon état général. Il faut ensuite remarquer que le dessin sous-jacent, que l'on voit très bien sur les photographies à la lumière infrarouge, montre une technique typique de Giovanni Bellini. Donc, aucun doute sur l'attribution. L'historien d'art Mauro Lucco propose une reconstitution de l'œuvre avec un panneau central représentant la Vierge à l'Enfant, conservé aujourd'hui à la Galleria dell'Accademia de Venise. Il ne s'agit que d'une hypothèse. En effet, les deux tableaux du PEC récemment découverts et ceux de la collection privée étant en France depuis au moins les années 1850, il est possible que le panneau central ne soit pas celui de Venise, mais reste encore à retrouver dans notre pays, peut-être dans une collection française. On le retrouvera peut-être un jour par hasard. La découverte de ces deux peintures constitue un événement extraordinaire. Ce sont les plus importantes peintures anciennes inédites retrouvées en France ces dernières années, avec le Cimabue dont nous allons parler. Leur réapparition permet désormais de rendre sans aucun doute les deux peintures du Louvre à Giovanni Bellini. Début juin 2019, la jeune commissaire priseur Philomène Wolf s'est rendue dans une maison près de Compiègne, dans l'Oise. La propriétaire des lieux, une dame âgée, lui avait demandé d'estimer ses biens et d'examiner des objets divers et variés, pour la plupart destinés à la déchetterie ou à une brocante. Parmi une centaine de lots, un petit panneau en bois accroché sur un mur entre la cuisine et le grand salon a attiré l'attention de la professionnelle. Une peinture non signée mais de belle finition représentant un épisode de la Passion du Christ, celui où Jésus est agressé, moqué et tourné en dérision devant la foule. La propriétaire expliquait que cette peinture appartenait à sa famille depuis très longtemps, mais qu'elle pensait que ce n'était qu'une banale icône russe du XIXe siècle. La famille n'en connaissait pas la provenance et n'y attachait aucune importance. La commissaire-priseur a pressenti que cette représentation très vivante de Jésus entouré d'une foule en colère cachait une œuvre remarquable. Peint à l'œuf et fond d'or sur panneau de peuplier, le tableau ne mesure que 25 cm sur 20 et semble avoir été retiré d'un plus grand ensemble. Maître Philomène Wolf pensa à un primitif italien et montra la peinture à Éric Turquin, un éminent spécialiste des tableaux anciens. Après examen de la pièce, l'expert et son équipe ont établi avec certitude que l'artiste n'était autre que Cimabue, le légendaire maître florentin dont les œuvres connues sont très rares. Ces experts ont conclu que le Christ moqué faisait partie d'un diptyque de dévotion privée composé de 8 panneaux, peints par Cimabue vers 1280, et dont seuls 2 autres morceaux ont traversé les siècles. Une flagellation du Christ, que vous voyez à droite, conservée à la Frick Collection à New York, et une Vierge à l'Enfant trônant entre 2 anges, visible à la National Gallery de Londres, à gauche. À l'origine, les 8 panneaux représentaient 8 scènes de la Passion du Christ. Dès la fin du XIIIe siècle, Cimabue pose les jalons d'un art occidental qui donnera la primauté à la représentation réaliste et humaniste de l'espace et des corps. Si le fond d'or ne permet pas encore de marquer la profondeur, de petites architectures encadrant la scène sous la forme de volumes simples suggèrent déjà le désir de l'artiste de représenter un espace en trois dimensions. De même, le dessin rompt avec le hiératisme byzantin et donne aux figures une véritable présence plastique, modelant avec souplesse des corps dont les drapés épousent le mouvement et dont les visages sont désormais empreints d'humanité. Il sera suivi par son élève Giotto di Bondone. Nous savons qu'en 1830, ce panneau de Carpaccio, représentant deux femmes, faisait partie de la collection de Teodoro Correre, qui était composée de plus de 1000 pièces. Ce tableau du musée Correre est devenu très célèbre au XIXe siècle, quand John Ruskin, critique d'art britannique, lui a donné le titre accrocheur de « Deux courtisanes ». Les nombreux titres donnés à ce tableau révèlent l'énigme que constitue l'attitude des deux femmes. De plus, il est saturé de symboles. Malgré les nombreuses études, on sait peu de choses sur ce tableau. La scène représentée a donné lieu à de nombreuses interprétations, parfois contradictoires. Cette peinture était considérée comme représentant deux courtisanes. Cependant, les historiens de l'art moderne pensent que les deux femmes appartiennent plus probablement à la famille patricienne Torella, comme le suggèrent leurs beaux vêtements, leur collier de perles et les armoiries qui figurent sur le pot d'où jaillit un lys blanc. Alors on verra le lys blanc plus tard, mais le pot est ici où il y a les armoiries de la famille Torella. La scène représente deux dames vénitiennes oisives assises sur un balcon entourées d'une balustrade en marbre. Elles attendent le retour de leur mari, on verra pourquoi plus tard. La plus jeune, le regard figé dans le vide, mollement appuyée sur la balustrade, semble s'ennuyer. Elle tient un mouchoir blanc. Il y a peut-être un symbole dans ce mouchoir. La plus âgée se distrait en jouant avec deux chiens. D'une main, elle soutient les pattes d'un petit chien. De l'autre, elle tend une baguette à ronger au plus grand, dont on ne voit que la tête. Le troisième personnage est un jeune garçon qui se tient curieusement à l'extérieur de la balustrade et qui se penche pour caresser une panne. Qui est-il, ce garçon? J'ai eu un peu de mal avec la panne. Et enfin, un pan, une panne. Voilà. J'ai toujours du mal avec ce mot. D'autres animaux sont présents. Et si le couple de pigeons ou de tortereilles peut symboliser une relation conjugale, la présence d'un perroquet et de la panne est plus énigmatique. Sur la balustrade, on remarque un fruit, peut-être une pomme, une orange ou une grenade, et deux pots, l'un contient un lys, symbole de pureté. Alors, c'est toujours le même pot. Et l'autre, un plant de myrte, qui est à droite sur la balustrade. Carpaccio a eu recours à une riche symbolique dont le sens est incertain. Un autre objet attire l'attention. Une paire de chaussures à haute semelle, des calcagnetti, accessoires courants des femmes à cette époque. Cette paire qui est ici. Des calcagnetti. Venise ne possédait pas de rue pavée. Ces chaussures permettaient aux femmes de ne pas salir le bas de leurs vêtements et de ne pas se mouiller les pieds. Une question se pose. À qui appartiennent-elles? Le bas des robes des deux femmes est légèrement déformé. On peut deviner qu'elles portent leurs propres chaussures à semelles hautes. Les calcagnetti présentes dans la composition doivent donc appartenir à une autre dame, une troisième dame. En 1963 intervient une découverte décisive. Le Getty Museum possède un tableau de Carpaccio intitulé Scène de chasse sur la lagune. Il fut découvert par Busiri Vici en 1944 dans un marché d'antiquaires à Rome. Des chercheurs, intrigués par un lys qui apparaît bizarrement sur ce panneau, tout à fait en bas à gauche, font le rapprochement avec le tableau du musée Corrère. La chasse de la lagune, sur la lagune, est le prolongement supérieur du tableau avec les deux femmes, le lys, établissant la continuité des deux scènes. Les deux tableaux appartiennent à un seul et même panneau de bois, sans doute découpé par un marchand d'art peu scrupuleux au XVIIIe siècle. La présence de charnières laisse à penser qu'il s'agissait d'une porte ou d'un élément de meuble commandé pour des fiançailles ou un mariage. Mais le grand chien, coupé dans la partie inférieure, permet de penser que la partie que nous connaissons ne représente que la moitié de l'œuvre. À ce jour, le pendant n'a pas été retrouvé. Les deux éléments étaient-ils articulés entre eux, formant un diptyque sur les portes d'un meuble? Des historiens d'art ont tenté d'imaginer le panneau manquant. Une troisième femme, la propriétaire des Calcagnetti, y figurait peut-être. Mais là, la personne qui a tenté de reconstituer le deuxième n'a pas osé représenter cette troisième femme, parce qu'on ne sait pas du tout dans quelle attitude elle pouvait se trouver. Si, enfin, un jour on trouvera peut-être la réponse. Un détail étonnant. Au dos du panneau du musée Getty, celui où il y a la scène de chasse, figure une peinture en trompe-l'œil. Elle représente un cadre avec divers morceaux de papier à cheval sur un ruban rayé, fixé au montant par deux petits clous. Sur l'un des papiers, on peut lire le nom d'Andrea Mocenigo. Ce casier à lettres illusoire est la première peinture en trompe-l'œil connue dans l'art italien. En 1866, le comte Guglielmo Locchis, podestà de Bergame et grand connaisseur d'art, offre 240 œuvres de sa collection de peintures à l'Accademia Carrara de Bergame. Parmi ses œuvres figure « La résurrection du Christ » d'Andrea Mantegna. À l'époque de son acquisition, la peinture est certifiée authentique, comme l'affirme un catalogue de 1846. Plusieurs historiens d'art remettent en doute la paternité de l'exécution en raison de restaurations médiocres qui avaient altéré la qualité du tableau. Ils suggèrent que la peinture n'est pas une réalisation de Mantegna, mais plutôt un travail d'atelier. C'est Bernard Berenson, célèbre historien de l'art américain, spécialiste de la Renaissance italienne, qui clôt le débat. Il considère que la toile est une copie. Elle est alors rangée dans les réserves du musée et oubliée. Elle va y rester pendant plus d'un siècle. Alors qu'il procédait récemment au recollement des collections du musée en vue de l'édition du catalogue raisonné des collections de peinture des Trecento et Quattrocento, le conservateur en chef, Giovanni Vallagusa, est tombé sur ce tableau qui l'a intrigué dès le premier coup d'œil, par la qualité de son exécution qui dépassait largement celle d'une simple copie. Il remarque aussi qu'une petite croix incomplète figure sur le bord inférieur de la toile. Cette croix a relancé l'enquête. Alors, la petite croix, elle est ici, et Claude a eu quelques difficultés à l'agrandir. Voilà. Cette petite croix ici, voilà, laisse penser qu'il s'est passé quelque chose. La présence de cette croix ne s'explique que si la résurrection de Bergame est en réalité la partie supérieure d'une composition plus grande qui montrait un autre épisode de la vie du Christ. Partant de cette hypothèse, le conservateur a réussi à établir un lien entre cette toile est le tableau intitulé « La descente aux limbes » qui représente le Christ descendant en enfer après sa mort et sa résurrection, pour libérer les âmes des justes. Il tient dans sa main gauche la hampe d'une bannière dont l'extrémité supérieure est tronquée. « Après vérification, il est apparu que les compositions des deux toiles concordent parfaitement et que la résurrection constitue donc la partie supérieure de la descente au limbe. En effet, la croix coïncide avec l'extrémité de la bannière tenue par le Christ de la descente au limbe, et les rochers qui l'entouraient sont aussi des éléments de continuité entre les deux parties. Cette découverte a ainsi permis à Giovanni Vallagusa de réattribuer la toile de Bergame à Mantegna, une identification rapidement confirmée par Kees Christiansen, le plus grand expert de l'œuvre de Mantegna, le confirme. L'enquête a permis non seulement de confirmer que la résurrection du Christ appartient bien au maître italien, mais aussi de la dater aux alentours de 1492. La descente au limbe faisait partie de la collection de Barbara Piasecka Johnson et a été vendue en 2003 à un collectionneur privé pour 25,3 millions d'euros. C'est un panneau qui mesure 48 cm sur 37. Le tableau que vous avez sous les yeux, vous devez le connaître parce qu'il est au musée des Beaux-Arts d'Orléans. Il a été peint par Antonio Allegri da Correggio, dit Il Correggio, en français le Corrège. Il est né à Correggio, ce que rappelle son surnom, aux alentours de 1489. Il est mort en 1534 dans la même ville. Correggio est une petite bourgade située à 50 km à l'est de Parme, dans la région actuelle d'Émilie-Romagne. Ce peintre est l'un des plus grands peintres de la Renaissance. Bien que ses débuts restent mal connus, il est probable que le Corrège se soit formé à Mantoue au contact des œuvres d'Andrea Mantegna. La Sainte Famille avec Saint-Jean-Baptiste Enfant du musée d'Orléans utilise encore dans sa composition des formules chères à Mantegna, mais cette œuvre révèle aussi l'influence de Raphaël, influence assez évidente quand on compare ce tableau aux nombreuses versions de Vierge à l'Enfant réalisées par ce peintre, par Raphaël. Avant de parvenir à Orléans, ce tableau a appartenu à quelques grands collectionneurs. Au dos du tableau figure une marque au fer, CR, qui signifie Carolux Rex, surmontée d'une couronne royale. Cette marque atteste que la peinture se trouvait dans les collections de Charles Ier Stuart, roi d'Angleterre. La collection de Charles Ier était une des plus belles de son temps, elle comptait 1500 tableaux. Après deux guerres civiles, le 19 mai 1649, Oliver Cromwell s'empare du pouvoir et proclame une république appelée Commonwealth d'Angleterre. En 1653, il établira une dictature qui durera jusqu'à sa mort en 1658. Le 30 janvier 1649, à l'issue d'un procès au cours duquel il a refusé de se défendre, Charles Ier est décapité dans son palais de Whitehall. Dès le lendemain de sa mort, pour rembourser les lourdes dettes laissées par le roi, le Parlement républicain vendit à l'encan et dispersa les 1500 pièces de sa collection, dont des Léonard de Vinci, parmi lesquels le Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui au Louvre, des Raphaël, des Titien, Rembrandt, Rubens, Mantegna, etc. Et bien sûr, les magnifiques Vandyck, le peintre qui fut son portraitiste officiel. Pour rembourser les dettes du roi, on paya le plombier avec le déluge de Jacopo Bassano. Et on paya un vitrier avec l'éducation de l'amour du Corrège. C'était intéressant d'être plombier à cette époque-là. Au dos du tableau d'Orléans, les restes d'un cachet de cire rouge indiquent son passage dans la collection d'Evrard Chabard. Ce banquier allemand établi à Paris et grand collectionneur l'avait acquis en Angleterre. En 1662, il le revendit à Louis XIV avec une partie de sa collection. C'est dans l'inventaire de la collection de Louis XIV, fait par Charles Lebrun en 1693, que le tableau d'Orléans est mentionné pour la première fois. Il est décrit comme un travail à la manière de Correggio. À plusieurs reprises, il est réattribué, puis désattribué à Correggio. Tout au long du XIXe, il est considéré comme une œuvre d'un artiste anonyme de l'école lombarde. même quand il a été déposé par le musée du Louvre à Orléans en 1872. Cependant, en 1921, il fut attribué définitivement à Correggio par Roberto Longhi, célèbre historien de l'art italien, qui nota les similarités avec une autre version du tableau présent dans les collections royales de Hampton Court. Roberto Longhi est revenu à Orléans en 1924 et en 1950 pour confirmer son avis en précisant qu'il s'agissait d'une œuvre de jeunesse. La grâce et la grande douceur qui se dégagent de cette scène intimiste et paisible est bien due à l'influence de Raphaël. À l'origine, le tableau était un dépôt du musée du Louvre et, après son authentification par Roberto Longhi, le Louvre a tenté de le récupérer. Mais la municipalité d'Orléans a toujours refusé de le rétrocéder. En 2002, un article du Code du patrimoine précise que les biens des collections de l'État mis en dépôt avant le 7 octobre 1910 dans les musées de France appartenant aux collectivités territoriales font l'objet d'un transfert de propriété à ces collectivités. En mai 2007, dans le cadre de cette décision, le tableau du Corrège a été officiellement transféré en pleine possession à la ville d'Orléans. En raison d'une certaine rareté des œuvres du Corrège dans les collections publiques françaises, ce tableau est l'une des œuvres majeures du musée d'Orléans. Quelques informations sur Évrard Jabart, ce grand collectionneur, né à Cologne en 1618 et mort à Paris en 1695. Vous avez sous les yeux son portrait par Van Dyck, Antoine ou Anthony Van Dyck. Il existe plusieurs portraits de ce célèbre collectionneur. Il se faisait peindre par les plus grands peintres de son temps. Son père, Son père a fait fructifier la fortune familiale et a fondé une banque à Anvers. Il était également collectionneur. Évrard s'installe en France en 1638. Il est naturalisé français en 1647. Il est connu aujourd'hui avant tout comme un grand collectionneur qui aima surtout Raphaël, les frères Carrage, Rubens, Durer, Lebrun et Poussin. Parmi les très importants tableaux qu'il put réunir figurent des chefs-d'œuvre. Je vous montre quelques tableaux qui se trouvent tous au Louvre. Le portrait d'un sculpteur de Branzino. Le repos de la Sainte Famille pendant la fuite en Égypte d'Orazio Gentileschi, le père d'Artémisia. La mort de la Vierge de Caravage. L'allégorie des vices et l'allégorie des vertus du Corrège, qui proviennent du studiolo d'Isabelle d'Este à Mantoue. Et l'un des Titiens, l'homme aux gants, peut-être le plus célèbre. Il y a également une allégorie d'Alphonse d'Avalos, qui aurait dû rester dans les collections françaises. Il y a eu une histoire au niveau de sa fente fatale, une histoire compliquée encore. Les œuvres de ces collections proviennent d'Italie, de la collection Ludovisi, des Flandres, la collection de Lord Arundel, de la dispersion des biens de Rubens ou de la vente publique à Londres, des collections de Charles Ier d'Angleterre entre 1650 et 1653. C'est aussi, comme beaucoup de connaisseurs de son temps, un grand collectionneur de dessins, voilà une étude de draperie de Léonard de Vinci. À deux reprises, en 1661, puis pour un montant de 330 000 livres, puis en 1671, il cède une grande partie de sa collection à Louis XIV. En 1671, ce sont 101 tableaux et 5542 dessins qui entrent alors dans les collections royales. Ces dessins constituèrent le fond de l'actuel cabinet des dessins du Louvre. Les 220 000 livres obtenus par cette vente ont permis à Évrard d'acquérir deux hôtels particuliers. vous avez sous les yeux un portrait d'Henri IV en Hercule, une peinture anonyme du XVIe siècle qui appartient à la seconde école de Fontainebleau. Là, je vous parlais de quatre tableaux de Guido Reni qui constituent le cycle d'Hercule. Dès le XVIe siècle, la mode de se référer à Hercule était devenue un phénomène européen. J'aurais pu rester sur la page précédente. Les cours princières adoptèrent Hercule pour emblème dans leur prince, quand leur prince prétendait en être les descendants. Henri IV, fondateur de la dynastie des Bourbons, prétendit un temps descendre du héros grec. Après qu'Henri IV fut sacré roi de France dans la cathédrale de Chartres, le 27 février 1594, Hercule devint la référence obligée pour le représentant de la maison des Bourbons. Le mythe herculéen fit partie des décorations des maisons royales françaises depuis le Louvre d'Henri IV jusqu'au Versailles de Louis XIV. Les quatre peintures de Guido Reni, présentées dans la Grande Galerie du Louvre et qui illustrent la mort d'Hercule ou d'Héraclès, pour la peinture on passe facilement de l'un à l'autre, illustrent toute l'importance symbolique du choix de ce héros par l'Europe princière baroque. Les quatre peintures ont été commandées par Ferdinand Gonzague, duc de Mantoue, pour son nouveau palais, la Villa La Favorita, situé sur l'autre rive du lac par rapport à son palais principal. La maison ducale de Mantoue affirmait appartenir à la descendance d'Hercule. Ces peintures expliquent comment Hercule, mi-homme, mi-dieu, fut divinisé par Jupiter après sa mort. Guido Reni puisa son inspiration dans la métamorphose d'Ovide. Le livre 9 des métamorphoses débute par la description du combat que livre Achelous contre Hercule. Vous avez le tableau à gauche. Les héros se battent pour séduire Déjanire. Hercule triomphe d'Achelous et conquiert l'amour de la jeune femme. Déjanire est la dernière épouse mortelle d'Héraclès. Mais la beauté de Déjanire aiguise le désir mâle. Ainsi le centaure Nessus entreprend un jour de l'enlever à son tour, que vous avez à droite. Hercule abat le centaure d'une flèche qu'il décoche de son arc. Or, Hercule avait empoisonné les flèches de son carquois en les trempant dans le sang de l'hydre de Lerne. Le combat contre l'hydre de Lerne à gauche. C'est le sujet de l'un des tableaux de la série intitulé « Hercule tuant l'hydre de Lerne » de 1620. Nessus arrache la flèche. Son sang jaillit mêlé au poison du sang de l'hydre. Nessus le recueille et imprime sa tunique de son sang, encore chaud. Il fait don de sa tunique à Déjanire, lui faisant croire que ce vêtement est un stimulant pour l'amour. Un jour, Déjanire, se croyant délaissé, adresse innocemment à Hercule la tunique empoisonnée, pensant ranimer la flamme de son amant. Lorsqu'Héraclès revêt la tunique, celle-ci se colle à sa peau, le brûlant atrocement, voyant ce qu'elle avait fait, désespéré, Déjanire se pend. Souffrant le martyr et ne pouvant retirer la vie, Héraclès décide de mourir à la suite de sa femme. Il se coucha donc sur un bûcher et mourut incinéré au sommet du mont Œta. Après sa mort, Jupiter reçoit le héros parmi les dieux de l'Olympe, c'est son apothéose. Oui, la mort d'Héraclès ou d'Hercule, je passe de l'un à l'autre, à droite. Les tableaux du cycle d'Hercule ne sont pas demeurés très longtemps à Mantoue. Un an après la mort de Ferdinand Gonzague, dès l'été 1627, son successeur Vincent II, pour solder les problèmes financiers du duché que la collectionnite aiguë et le règne fastueux de Ferdinand avaient mené à la faillite, vendit la collection des tableaux de la couronne ducale au marchand Daniel Nils, intermédiaire du roi Charles Ier d'Angleterre. Le cycle d'Hercule demeura un peu plus de 20 ans à Londres. En 1649, Charles Ier fut décapité, sa collection de tableaux fut vendue, un certain Évrard Jabard, toujours lui, banquier, grand collectionneur, acheta l'histoire d'Hercule de Goudoroni et vendit sa collection en Louis XIV. Les quatre peintures illustrant le mythe herculéen retrouvèrent alors un foyer royal où l'ascendance d'Hercule avait été revendiquée par le fondateur de la dynastie des Bourbons. Louis XIV, sensible à ce symbole, plaça les quatre tableaux de Guidoroni dans la salle du trône de Versailles, le salon d'Apollon, où les tableaux demeurèrent jusqu'à la Révolution. Ils quittèrent le château de Versailles sous la Première République lorsque, un an, jour pour jour, après la déchéance de Louis XVI, le futur musée du Louvre, appelé Muséum central des arts de la République, fut officiellement inauguré le 10 août 1793. Giovanni Baglione, l'auteur des tableaux que vous avez sous les yeux, 1566-1643, est un peintre italien et un historien de l'art du début du baroque. Il a travaillé principalement à Rome. Après 1600, il va être influencé par l'art du Caravage. Irrité par les imitations de ses œuvres, le Caravage le ridiculise publiquement. Le 28 août 1603, Caravage et son architecte, Onorio Longhi, Le 28 août 1603, Caravage et son ami architecte Onorio Longhi sont convoqués devant le tribunal de Rome avec les peintres Orazio Gentileschi et Filippo Trisegni. Ils sont accusés d'avoir diffamé Baglione dans un sonnet contenant de graves insultes à l'encontre du peintre. Le poème est en effet truffé d'allusions obscènes, voire scatologiques. Les auteurs ont affublié Giovanni Baglione d'un autre nom de famille, Coglione, ce qui peut se traduire par connard. Jouant sur la proximité phonique des deux noms et ridiculisant ainsi leurs victimes, au terme du procès, Caravage est condamné à une peine d'emprisonnement qu'il purge à Tordinona entre le 11 et le 25 septembre 1603, date à laquelle il est libéré grâce à l'intervention de l'ambassadeur de France, preuve du soutien dont jouissait le peintre auprès du milieu français à Rome. La carrière de Baglione a continué à Rome avec de nombreuses commandes. Le pape Paul V l'ordonne chevalier de l'ordre du Christ pour son travail dans la basilique Saint-Pierre. Il a été prince de l'académie de Saint-Luc de Rome en 1618. La série des 10 tableaux représentant Apollon et les 9 muses a été commandée à Baglione par le cardinal Ferdinand Gonzague, encore lui, duc de Mantoue. Cet ensemble, exécuté vers 1620-1621, était destiné à orner une salle de la Villa Favorita. Baglione le traita dans l'esprit du Caravage, peignant les muses grandeur nature, se détachant sur un fond noir. Apollon, que vous voyez à gauche, pourrait avoir les traits du cardinal Ferdinand Gonzague. Un drapé violet recouvre sa jambe droite. Un très fin ruban bleu orne sa poitrine, il tient d'une main un archer, de l'autre un violon, semblable à ceux que peignit Caravage dans certains de ses tableaux. Quant aux muses, Calliope, que vous avez sous les yeux, c'est Calliope qui est à droite. Muse de la poésie épique, Erato, muse de la poésie lyrique, Thalie, muse de la comédie, Melpomène, muse de la tragédie, Polymnie, muse de l'éloquence, Clio, muse de l'histoire et de la poésie héroïque, Euterpe, muse de la musique, Terpsichore, muse de la danse, et Uranie, muse de l'astronomie. Elle rivalise de couleurs éblouissantes et de gestes gracieux. Vous avez à gauche Erato et Thalie à droite. Marie de Médicis, épouse d'Henri IV, a joué un très grand rôle dans la diffusion de l'art italien en France. On savait que le meilleur moyen de gagner les faveurs de la reine était de lui offrir des tableaux. le cardinal Ferdinand Gonzague souhaitait obtenir de la part de sa tante Marie de Médicis le titre d'altesse pour le prince Vincenzo, son frère. L'ambassadeur de Mantoue à Paris, Giustiniano Priandi, se chargea de cette mission et put obtenir l'envoi d'Apollon et des neuf muses de Giovanni Baglione. Les toiles arrivèrent à la fin de septembre 1624 au palais du Luxembourg, et dans une lettre du 5 octobre, Priandi écrivait « La reine-mère est venue hier à son palais exprès pour voir les tableaux. Elle les a trouvés bellissimi, et elle m'a dit deux fois qu'elle était très contente. » Toute la cour se répandit en éloges hyperboliques, osant placer Baglione au-dessus du grand Rubens. Ces toiles étaient exposées dans le cabinet doré qui précédait la célèbre galerie décorée par Rubens. En 1789, les tableaux sont saisis et envoyés au Muséum central des arts. En 1938, ils furent déposés au musée d'Arras. Ils sont tous conservés au musée d'Arras, à l'exception de Melpomène, muse de la tragédie, car ce tableau a disparu. Un Christ en croix était accroché depuis longtemps au musée des Beaux-Arts de Nice. Entré dans ses collections en 1879 avec le legs de Fly, il avait été catalogué en 1902 comme une œuvre de Fra Bartolomeo, peintre florentin. Mais cette attribution avait été abandonnée rapidement et le tableau, qu'on pensait désormais être du XVIIe siècle, était retourné à l'anonymat. Un événement fortuit va bouleverser le dessin de ce tableau, le destin de ce tableau. C'était au mois d'octobre 2005. Philippe Costamagna déambulait avec son ami Carlo Falciani dans les galeries du musée des Beaux-Arts de Nice. Philippe Costamagna est directeur du Palais Fesch, musée des Beaux-Arts d'Ajaccio. Lui et son ami sont des spécialistes de la peinture italienne du XVIe siècle. Il raconte. Le soleil, souvent présent sur la baie de Nice, était haut dans le ciel ce jour-là et laissait pénétrer ses rayons dans la galerie selon un angle aigu. Tout en jetant un coup d'œil distrait aux collections, je me souviens que nous bavardions de toute autre chose quand nos yeux se sont arrêtés sur un Christ accroché au bout du couloir, au pied duquel tombait un rayon de soleil qui faisait reluire des ongles à la texture porcelainée que je reconnaîtrais entre mille. « Tu vois ce que je vois ?» m'a demandé Carlo. Le bavardage a laissé place à un silence époustouflé. Nous voyons bien la même chose. À la faveur de ce rayon de soleil providentiel, s'était révélé le Christ en croix de Bronzino, peint par l'artiste à l'intention de la famille florentine des Panchetti qui, vers 1540. Les époux Panciacchitti étaient des banquiers florentins riches et puissants, mais aussi engagés en faveur d'une réforme interne à la foi catholique, tenant compte des objections de Luther. Ils sont les parfaits représentants de la bourgeoisie marchande triomphante de cette époque. Le tableau en question était considéré comme perdu et vainement recherché par les connaisseurs de la peinture florentine de cette époque. Il était connu uniquement par la description qu'en donne Giorgio Vasari dans ses Vies, commandes du grand-duc de Florence. Curieusement, Vasari n'aimait pas tellement Bronzino. Il décrit ce tableau en qualifiant l'œuvre d'extraordinaire. Pour Bartolomeo Panciatichi, il fit le tableau d'un Christ crucifié, exécuté avec tant de soin et tant d'application qu'on voit bien qu'il prit pour modèle un véritable corps mort mis en croix. La révélation tient alors à peu de choses, l'éclat de la lumière sur un orteil du Christ. S'il n'y avait pas eu ce rayon de lumière naturelle, nous n'aurions pas eu cette révélation du tableau de Bronzino, confie Philippe Costamagna. En réalité, cette reconnaissance repose sur une énorme érudition et Philippe Costamagna est considéré et ce qu'on appelle un œil. Agnolo Allori, dit le Bronzino, était successivement l'élève, l'amant, l'ami est le fils adoptif du peintre Pontormo. Il est considéré comme le plus grand peintre maniériste florentin à la cour des Médicis. Les œuvres de Brandino sont très rares dans les musées français. On dénombre 3 œuvres au Louvre et le musée de Besançon conserve la magnifique déploration sur le Christ mort. La découverte d'un grand chef-d'œuvre de la Renaissance italienne est un événement majeur. Celle-ci justifiera désormais à elle seule une visite au musée des Beaux-Arts de Nice. Un mot sur la collection Campana. C'est en 2011 que j'ai eu le plaisir de faire devant vous ma première conférence sur la collection Campana. Vous vous en souvenez certainement. C'est une formidable collection acquise par Napoléon III. Parmi les 11 835 objets acquis par la France, figuraient plus de 600 tableaux italiens qui ont été dispersés dans une centaine de musées français. Je vous montre l'un de ces tableaux, de Vittore Carpaccio, la Sainte Conversation, qui a appartenu à la collection Fesch. C'était l'oncle de Napoléon qui était le plus grand collectionneur de toute l'histoire de l'art. Un collectionneur fou, mais génial d'un certain côté. Puis il a appartenu à la collection Campana, et ensuite il s'est retrouvé donc à Paris, au Louvre, et il a été déposé au musée de Caen. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Puisqu'il s'est regroupé avec un certain nombre de tableaux provenant de la collection Campana au Petit Palais d'Avignon. 12 tableaux de la collection Campana avaient été déposés au musée d'Orléans. En 6 tableaux ont été déposés, en 1872, 5 tableaux, et en 1876, 1 tableau. En 1945, la direction des musées de France décide de regrouper en partie les peintures de la collection Campana au Petit Palais d'Avignon. Je vous rappelle qu'ils avaient été dispersés dans une centaine de musées français. Dès les années 1950, des tractations avec les musées commencent. En 1953, 327 peintures de primitifs de cette collection ont été rassemblées pour être présentées au Petit Palais d'Avignon. Le musée d'Orléans est également sollicité. Un tableau de Francesco Furini, représentant un buste de guerrière armée casquée, une Jeanne d'Arc, avait été déposé au musée de Jeanne d'Arc. À Orléans, il a disparu en 1940. Il a disparu en 1940 dans le bombardement du musée. Il restait 11 tableaux de la collection Campana. En 1969, la direction du Louvre retient 7 tableaux d'Orléans pour le musée d'Avignon. Je vous montre l'un d'entre eux, Danzano Ciampatti, la Vierge et l'Enfant, entre Saint Jean l'Évangéliste, Sainte Brigitte de Suède et deux anges. Il y avait aussi une Vierge et l'Enfant de Vittore Crivelli, un Saint Jérôme guérissant le lion d'Ottaviano di Martino di Mello, et 4 petits panneaux de l'école de Sienne racontant l'histoire d'Aîné et de Didon. Donc ces 7 tableaux ont été retirés du musée d'Orléans pour être envoyés à Avignon. Il en reste 4, toujours visibles au musée d'Orléans, de la collection Campana toujours. Alors, celui-là, ce n'est pas un peintre italien, mais c'est un de mes tableaux préférés, je l'adore. De Marinus Kleysen van Remerswelle, Saint Jérôme dans son cabinet de travail, c'est un Hollandais. Il y a aussi de Bonifazio de Pitati, le Christ bénissant la Vierge et Saint Marc. Girolamo del Pacchia, Vierge à l'enfant avec Saint Joseph et Sainte Catherine de Suède, et puis un autre tableau, une autre Vierge à l'enfant de Paolo di Bernardino del Signoraccio. Bon. L'histoire et les aventures vécues par les œuvres d'art constituent leur légende et font partie de l'histoire de l'art. Il arrive que des tableaux démantelés par les guerres, par les ventes successorales ou la vénalité des marchands d'art retrouvent leur intégrité, même partielle, après de longues recherches de spécialistes passionnés. C'est toujours émouvant d'assister à ces découvertes. Je vous remercie de votre attention.
Bien. Y a-t-il des questions à Jean-Louis?
Qu'il est devenu le tableau de la vieille dame qui ne savait pas qu'elle avait un chef-d'œuvre
Jean-Louis, tu l'as entendu, c'est le Cimabue. Qu'est-ce qui est devenu le Cimabue?
Le tableau de Cimabue. Alors, maintenant que je me... Que je retrouve. Mais je crois que... Ah oui, non, oui. J'ai dû sauter, effectivement. Je vous ai dit qu'il avait été. Est-ce que j'ai sauté ce passage? Ça m'étonne. Le 27 octobre 2019, j'ai dû sauter ce passage. La vente du tableau a lieu dans la salle du ménage ordonneur. Je ne vous l'ai pas dit, ça? Ah, voilà. J'ai dû sauter ce passage. J'ai raison de poser la question. Il a été vendu dans la salle du ménage ordinaire de Senlis, mis à prix à 3 millions d'euros. Le Christ moqué de Chenille di Peppo, dit Cimabue, a été adjugé à 19,5 millions d'euros au marteau, soit 24,18 millions d'euros. Avec les frais, un couple de grands collectionneurs chiliens, la collection Alana, qui est très connue. Cependant, le panneau de Cimabue était classé trésor national par le ministère de la Culture, qui a refusé la délivrance de son certificat d'exportation. Reconnue comme majeure et inédite, l'œuvre pourrait ainsi rejoindre la maestà du maître italien conservée au musée du Louvre. Encore faut-il rassembler la somme nécessaire pour l'acquérir, mais je ne sais pas où en est la situation. Excusez-moi, j'ai dû sauter ce passage qui effectivement répond à votre question.
Bravo Marie-Cécile, pour Corée et la cuite. Je signale que dans la revue des Amis du Musée, il y a 4 pages rédigées par Jean-Louis, étude de 2 toiles de Marie-Amélie Cognet. D'autres questions?
Je ne comprends pas.
Marie-Amélie, c'était la fille de Léon Cognet?
Marie-Amélie, c'est la sœur.
Ah, la sœur.
C'est la sœur, et il y a aussi des tableaux de son épouse, enfin c'est son élève qu'il a épousé à l'âge de 70 ans, lui il avait 70 ans, Caroline Thévenin, et qui avait une sœur aussi qui était peintre, elles étaient peintres toutes les deux. Il y a des œuvres des 3 femmes, de Marie-Amélie, de Caroline et de Rosalie au Musée des Beaux-Arts, dans les nouvelles salles du 19e. Oui. Avec le nouvel accrochage qui est époustouflant. Hein. J'ai pas mis le micro, pardon.
C'est à côté du magnéto. D'autres questions? Non? Bien. Eh bien, on se retrouve alors dans 3 semaines avec Jean-Marc Gilly. Qui doit nous parler de... Et là, appelons maintenant le nouveau titre, je n'ai pas... De Lombrie. Et vous pourrez... Je n'ai pas tous les yeux avec le nouveau titre, comme il vient d'être mis, je n'ai pas mémorisé. Bon, ben, c'est Lombrie, une région italienne, qui sera le sujet pour ce jour-là. Et puis, à la semaine d'avance, ce sera l'expo dans le hall ici. Voilà, mais merci pour votre présence, et puis à bientôt. Merci.
Heureusement que Marie-Cécile veille.